si public, nombreux et fidèles, vous avez le droit de vous rapprocher simplement en place. Moi, je m'étais toujours derrière, mais je vais venir devant. On va avec la dame de l'équipe, Lucian, comme ça qu'on prononce, Lucian, avec Serton, qui vient de sortir chez Rivière Blanche, avec des personnages qui arrêtent le temps, donc elle va pouvoir nous expliquer. À ses côtés, Charles Strauss. Alors Charles Strauss, on connaît en France une partie de sa bibliographie, on connaît notamment le cycle des Princes Marchands, mais on connaît aussi Thierry Rondo qui vient de sortir aux éditions Pyrama. Nous avons alors, à ses côtés, le traducteur Laurent Weil, dont on vous conseille aussi les livres, parce que quand il ne traduit pas, il écrit. Et il est en train de perdre avec ce personnage, donc on vous les conseille. Xavier Bruce, qui a fait Incarnation il y a 5 ans, dans ces eaux-là, et qui vient de sortir un livre qui s'appelle La République des Enragés, aux éditions QSF, on vous recommande. Juste pour l'instant, pull. Et puis Jean-Marc Limy, qui est à mes côtés. Jean-Marc Limy, voilà. Merci. Jean-Marc Limy, on va parler de pas mal de choses. Jean-Marc Limy, dans les dernières choses, il y a Semence qui suit Aquatem et Exode, où on va parler plutôt d'une science-fiction un peu écologique, avec ses problématiques en tout cas. Et puis qui vient de ressortir aussi la saga d'Octavo, Pure Space Opera, qui se passe vraiment dans les étoiles avec des vaisseaux spatiaux et assez rock'n'roll. Notre thématique, elle est d'abord sur le temps. Et puis aller aussi sur le futur. Il faut d'abord qu'on s'arrête sur le temps et qu'on discute avec chacun de ces auteurs de leur manière d'aborder cette thématique temporelle. Je voudrais commencer avec toi, Xavier, puisque La République des Enragés est une presque chronique, c'est-à-dire que ça se passe en mai 68. Peut-être que tu nous donnes ton rapport avec le temps dans ce livre-là. Se retrouver en mai 68. Et le thème de mai 68 s'est imposé tout de suite parce que je voulais qu'il y ait une période comme ça qui bouge beaucoup, où il y a beaucoup de. Il se passe beaucoup de choses, où il y a une certaine ébullition. Et puis ça s'est imposé aussi parce que je trouve qu'il y a beaucoup de correspondances avec des choses qui se passent aujourd'hui. Donc j'ai essayé de mettre ça aussi. En fait, l'idée, c'était d'écrire une uchronie en mettant ça en rapport avec aussi beaucoup de choses qui se passent dans le présent. Il y a un personnage dans le bouquin qui au début, ressemble beaucoup à Jacques Chirac, comme il était à l'époque, c'est-à-dire puisqu'il était effectivement le secrétaire d'État de Georges Pompidou. Et c'est intéressant parce que bon, c'est un personnage qui ensuite est devenu président de la République. Et je me suis en fait amusé à mettre une uchronie dans l'uchronie. C'est-à-dire qu'en fait, ce personnage qui au début rappelle beaucoup le Chirac du départ, en fait, petit à petit commence à ressembler énormément à Nicolas Sarkozy. Et donc, ça fait une sorte de compression temporelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui serait passé si Jacques Chirac était devenu une sorte de Nicolas Sarkozy avant l'heure. Donc, ça, enfin, après, je sors un petit peu du débat, mais en même temps, pas comme ça, parce que c'est vraiment jouer avec le temps. Et du coup, mettre dans une uchronie qui, a priori, se passe sur une période assez ancienne, mettre des références qui sont vraiment très, très présentes aujourd'hui. Quoi. Voilà. Donc, c'était ma façon d'aborder, en fait, l'uchronie. Après, c'est vrai que j'ai pas, pour l'instant, encore écrit
a l'amour, il y a le corps, il y a le temps qui sont les ressources clés de l'existence. Et c'est vrai qu'Elisabeth Ier d'Angleterre disait, à la veille de sa mort, tout mes biens pour un peu plus de temps. Donc ça veut vraiment dire que le temps, c'est une ressource très très rare. Donc je me suis dit, je vais imaginer d'arrêter le temps, tout simplement, pour en avoir plus. Et puis après, de fil en aiguille, bon, je ne vais pas dévoiler les livres, mais c'est un peu le bordel, parce que si tout le monde arrête le temps, il y a un souci. Maintenant, dans la vraie vie, évidemment, on ne peut pas arrêter le temps. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire les choses plus vite, de réduire les distances, avec Internet, etc. Mais finalement, on ne vit pas plus longtemps, on fait juste les choses plus vite. Donc je me suis dit, il y a peut-être une autre façon d'arrêter le temps, c'est tout simplement d'en profiter, de dilater le temps, je ne sais plus qui disait ça, avec une activité comme la lecture ou avec quelqu'un qu'on aime. Profiter de l'instant, dilater le temps, c'est une façon d'arrêter et d'en avoir plus sans arrêter le temps comme dans la science-fiction.
Ce qui est intéressant dans votre roman, c'est que quand on arrête le temps, on fonde le premier personnage.
Voilà, alors en fait, arrêter le temps, c'est quand même super parce qu'on peut faire des tas de choses avouables et inavouables.
C'est inavouable qui nous
intéresse. Voilà, donc c'est vrai que c'est plus sympa de lire un bouquin quand il y a un peu de sexe, un peu de violence, un peu d'inavouable. Donc, j'en ai mis, mais il y a un personnage qui arrête le temps simplement pour travailler plus, être plus compétitif. Il y en a un qui arrête le temps pour tricher, en fait, il fait du ski, donc il arrête le temps, il glisse un peu entre deux portes et il y a des courses de ski. Voilà, il y a tout l'usage. La clé étant d'être le seul à arrêter le temps, parce que si tout le monde arrête le temps, on n'en a plus l'avantage. Voilà. Donc c'est de là tant qu'on arrive, quand on est le seul à le faire. Voilà. Si vous achetez le livre, vous aurez la technique pour arrêter le temps. Ouais,
intéressant ça. Avec Charles Strauss, je voudrais qu'on parle presque de l'accélération du temps avec la singularité. Quel est votre rapport justement au temps et notamment dans l'accélérando?
I wrote this book some time ago. I began writing it in 1998 when I was working as a programmer in a .com.
Il a commencé à écrire ce bouquin dans les années 98 quand il travaillait dans l'informatique.
Tim Berners-Lee, the inventor of the World Wide Web, once said that in the 1990s, 5 years passed on the web for every 12 months in the real world.
Il dit que un des créateurs de l'Internet a un jour dit qu'il se passait 5 ans sur Internet quand il se passait 20 ans dans la réalité.
I was a programmer at a company where I was the first employee. In early 1997, the company went public in the year 2000 with 40 employees for €50 million.
Et puis il a commencé dans les années 97, le premier programmeur d'une boîte, et qu'elle a fini dans les années et qu'en 2007, cette société pesait €1 million.
At one point, the amount of transactions the software I was writing had to deal with were increasing by and our business by 30% compound growth per month for 9 consecutive months.
30%. À un moment donné, le montant des transactions qu'il faisait sur l'informatique a augmenté de 30% par tous les 9 mois.
I really wanted to be a science fiction writer, not a programmer, and I was under a lot of pressure. And I started writing a story called Lobsters to sort of make a pearl around the irritant sound ring of the sense of acceleration. I was like, okay.
Il a toujours voulu être un auteur de science-fiction, mais il était pris dans la machine du travail, sous pression, et à un moment donné,
I'm not quite sure about that one. Okay. Now, when I got through this story,
jouer avec le temps et la singularité, qu'est-ce que la singularité en fait a d'intéressante pour un auteur de science-fiction? Qu'est-ce que ça dit de nous?
The first science fiction writer to pin to name it as such was Werner Vinge, the American computer scientist, and he observed that as our computers are rapidly getting more powerful, if you can make an artificial intelligence that is equivalent to a human brain in its functioning, then run it on a faster computer. What did you get? You get a faster computer intelligence.
Le premier à mentionner la singularité était Werner Vinge, un Américain qui était aussi scientifique informatique, et qui disait qu'à partir du moment où on obtiendrait un ordinateur qui égale le cerveau humain, qu'est-ce qui se passerait si on développait un ordinateur plus rapide que ça?
Such artificial intelligences will want to build ever faster and more powerful hardware to run on. So that, in effect, the first artificial intelligence we develop will be the last human invention ever, after which we are not in charge anymore.
Et dit qu'à partir du moment où ces machines-là seraient capables de se fabriquer elles-mêmes, leur objectif serait de se fabriquer de plus en plus rapide. Et donc, à partir du moment où elles arriveraient à faire ça plus vite que l'homme, donc, on se retrouverait dans une situation où cette invention de l'ordinateur qui est capable de se recréer serait la dernière invention de l'homme, en fait, puisque après les machines sont en train.
Incidentally, these days, I finished writing this book 10 years ago. These days, I disagree. My current belief, which I was fumbling my way to when I was writing Accelerando, is that we invented the first artificial intelligences 300 years ago. Corporations.
Il dit que son état d'esprit a changé à propos de cette fameuse théorie de Werner Vinge, et il pense maintenant que, en fin de compte, l'intelligence artificielle a été inventée par l'homme il y a environ 300 ans, quand il a inventé les corporations.
Corporations are very slow artificial intelligences that use human beings for many of the functions we would expect them to use software for, but these days they're increasingly replacing human beings with pieces of software, and we should watch out.
Les corporations sont des sortes d'organismes qui emploient les humains pour fabriquer, pour faire des choses à la place des ordinateurs, et de plus en plus maintenant on emploie des ordinateurs pour fabriquer des choses à la place.
And one thing about Accelerando is it is obsessed with the effects of artificial intelligence on business, or business on artificial intelligence, as I was working my way towards this idea of corporations. And at one point, our protagonists meet an alien civilization, or the wreckage of an alien civilization, in the shape of its feral, living wild financial instruments.
I had it. quand il écrivait ce livre, en fait, il était en plein milieu de cette réflexion. Et dans le bouquin, je la fais un peu plus courte, dans le bouquin, à un moment donné, les protagonistes de Accelerando tombent sur une civilisation alien, en fait, ils tombent sur les vestiges d'une civilisation alien de business féodal, on va dire. Oui, ça suffit.
Okay.
On va passer la parole à Jean-Marc.
j'irai distendu en fait à chaque fois en allant entre Exode et Future Semence, en allant à chaque fois un peu plus loin dans le temps. Donc Aqua, effectivement, est un roman pré-apocalyptique. C'est pas dans un futur très proche qui ressemble beaucoup à notre présent, où je pose juste un peu les conséquences du réchauffement climatique, du changement climatique au niveau de la société, comment ce changement produit les premières fissures en fait dans le tissu de la société, de l'économie mondiale, surtout l'économie d'ailleurs, sur un premier temps. Ensuite, là, effectivement, dans l'Exode, je vais plus loin, donc là c'est plutôt vers la fin du 21e siècle, où là c'est carrément l'humanité qui s'effondre, mais reste encore des bulles, des enclaves en fait qui essayent d'une certaine façon d'arrêter le temps, ou du moins vivre dans une espèce d'éternel présent, surtout plus penser au futur, parce que le futur de toute façon sera destructeur. C'est ce que pensent les jeunes dans ces enclaves, ils n'ont plus d'avenir, ils ne veulent plus réfléchir à aucune forme d'avenir, donc ils vivent dans une espèce de présent désabusé, où ils s'abîment dans des tristes fêtes en fait. Et où le reste de l'humanité, qui n'a pas eu le privilège d'intégrer ces enclaves, a survécu comme il peut dans une terre où de plus en plus hostile en fait à la vie, quoi. Là, on est dans l'apocalypse en fait. Et dans ce monde que je suis en train de finir à la bourre, là c'est le temps qui m'a rattrapé, ou plutôt moi qui cours après. Là on est encore à l'échelon de 3 siècles à peu près, où j'essaie d'imaginer avec l'aide de l'éminent scientifique qui m'ont bien donné un coup de pouce d'ailleurs sur la question ce que va produire ce changement climatique, vers quoi il va aboutir, dans quelle stase il va se stabiliser plus ou moins quoi, et quel sera l'état de la Terre à ce moment-là. Et évidemment, l'humanité aura survécu d'une certaine façon, enfin du moins une partie d'humanité, parce qu'on n'est plus coriace que les cloportes. Donc on va survivre. Mais en revanche, ces survivants d'humanité, vu qu'il n'y aura pratiquement plus aucun vestige des civilisations passées, et surtout plus de mémoire, puisque la mémoire de nos civilisations actuelles est essentiellement numérique. Bon, il y a des livres, évidemment, mais le papier, ça se dégrade. Hein. Surtout s'il n'y a rien pour l'entretenir. Quoi. Bon, effectivement, on peut conserver dans les bibliothèques climatisées des grimoires qui ont 4 ou 5 000 ans actuellement. Mais s'il n'y a rien pour les conserver, le papier, c'est ce qui se dégrade quasiment le plus vite. Et les mémoires virtuelles, enfin électroniques, ben, s'il n'y a pas d'électricité ni d'appareil pour les lire, ben, ils n'existent plus. Donc, c'est ces vestiges d'humanité. En fait, non plus comme souvenir que des légendes, des âges sombres, ce qui est notre époque. Donc, ça parle de. C'est des légendes, quoi. Donc, ça parle de démons, ça parle de vengeance de mère nature. L'humanité vit dans la crainte de mère nature. En fait, c'est une espèce de culte général qui s'est imposé de respect de la nature, mais un peu comme une déesse de colère, en fait. Qui est toujours prégnant parce que la Terre est, à certains endroits, toujours invivable. Quoi. Il y a des températures supérieures à 100 degrés la journée, il y a des tempêtes monstrueuses, le climat s'est stabilisé dans une espèce de cycle qui a transformé totalement l'aspect de la planète. Donc on peut survivre, et puis même des animaux ont survécu, etc. Mais c'est un nouveau cycle écologique en fait. Et c'est l'histoire de deux voyageurs en fait qui partent à la recherche d'un paradis perdu qu'ils ont découvert sur un fleur en soie peinte japonais, donc qui représente le Fujiyama enneigé avec les fleurs de prunier devant et comme le chimiste, et ils pensent que ça existe parce qu'ils ont découvert
autre chose quand vous écrivez à Cléon, quelles sont les intentions, qu'est-ce que vous avez envie de faire ou de dire?
Quand vous arrêtez le temps,
personnellement, je manque de temps, mais comme sûrement beaucoup de gens ici, donc c'est un fantasme d'arrêter le temps. Après, il y a une troisième dimension qui est que je pense que la science-fiction est là pour aider à la réflexion, parce qu'en fait, la science découvre des trucs, on pourrait dire que la science découvre le moyen d'arrêter le temps. Et la science se soucie absolument pas d'éthique ou de ce qu'on va faire à l'avance. La science découvre des choses, soit bien ou mal, à l'avance. Et c'est à la société, donc aux écrivains de science-fiction, de réfléchir aux conséquences de ces inventions. Donc, ça, c'est le troisième niveau, en fait. C'est à nous, écrivains, d'imaginer qu'est-ce que les inventions vont donner, comment elles vont être utilisées. Souvent, on arrive à quelque chose de mauvais, mais ça pourrait être bon, mais souvent, on imagine du mauvais. Et donc, c'est notre rôle, en tant qu'écrivain de science-fiction, de cristalliser le côté éthique que la science n'a pas, en fait. Voilà, c'est trois niveaux. Donc, distraire en premier, et après, personnellement, je manque de temps. Et troisièmement, il y a un côté réflexion.
La même question pour toi, Clarimont, je pense que c'est un peu l'Uchronie. C'est pas forcément innocent. Est-ce que, pareil, il y avait des intentions, parce que finalement, ton histoire aurait pu se passer dans le futur, aurait pu se passer dans le présent. Oui, pourquoi avoir choisi l'Uchronie, qu'est-ce que ça dit? En fait, j'ai choisi l'Uchronie aussi parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des correspondances avec le présent. Parce que c'est vrai que quand je suis parti sur cette histoire d'enfant et qu'on retrouve ensuite adultes en 1968 et qui sont vraiment qui participent à cette révolte parce qu'ils ont des raisons aussi de participer à cette révolte, je me suis dit qu'on était quand même pas très loin de ce qui se passe un petit peu aujourd'hui. Il y a quand même il y a toujours, je trouve, un problème énorme de communication entre le pouvoir en place et toute une partie de la jeunesse, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, en fait, en écrivant cette Uchronie, moi j'ai vraiment eu l'impression aussi vraiment de parler du présent, pas seulement pour des histoires comme ça, des références à Sarkozy, à Chirac ou d'autres choses, ouais, des personnages qui sont encore vivants comme Bendit ou Serge Julie. Et j'ai vraiment eu la sensation que ce problème ce décalage en fait était entre la jeunesse et le pouvoir est toujours là. Donc, du coup, j'ai trouvé que ça avait toujours une actualité. Après, bon, peut-être que des gens, je pense, peut-être que les gens n'ont pas cette impression-là, qui ont l'impression que 68, c'est vraiment une période comme ça, quelque chose de totalement révolu. Mais je pense que, bon, moi, je ne me pose pas en prédicateur d'un avenir. Je ne suis pas du tout un battant de guerre ou des choses comme ça. Il y a beaucoup d'humour dans le livre. C'est pas un livre, c'est un livre militant, mais dans le bon sens du terme, je trouve, dans le sens aussi avec une certaine ironie. Voilà. Mais par contre, après que des événements de cette nature se produisent, franchement, je pense qu'il y a
est-ce que, comme on le dit tout à l'heure, on a parlé de fantasme d'arrêter le temps, il y a un fantasme de faire une chronique, de se plonger dans une période comme ça, comme 68.
Oui, c'était très très curieux, oui, c'est parce que c'est pas vraiment de restituer, c'est pas seulement de restituer des faits historiques, c'est vraiment de restituer un état d'esprit qu'on avait à se mettre dans la tête de jeunes gens comme ça, de cette période. Vraiment, 68, pour ça, c'est très intéressant quoi, pour un romancier, parce que c'était des gens qui avaient des rêves immenses, enfin, qui avaient une passion enfin, pour la vie, des envies, des désirs, il y avait quelque chose de bouillonnant,
pensé à quoi, en fait, quand j'ai pris conscience du changement climatique au début des années 2000. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que ce n'était pas un futur possible, mais pas certain, genre la guerre nucléaire. Par exemple, bon, la guerre froide, bon, c'est sûr qu'il y avait un moment des gros risques que ça nous tombe dessus, mais c'est un risque que ça nous tombe dessus. Je sais pas, un astéroïde qui tombe sur la Terre, c'est un risque que ça lui tombe dessus. C'est pas quelque chose de certain. Et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était un coup tournant. Et que quand je ne pouvais plus parler de futur, plus écrire une histoire de science-fiction sans aborder ce sujet-là, quoi, ou du moins le mentionner, quoi. Et bon, jusqu'après, avant, j'avais déjà écrit des romans de science-fiction. Plus ou moins sociale ou politique, comme Jihad ou Winner City. Et puis là, je me suis dit, bon, ben, le futur passe par le changement climatique, qu'on le veuille ou non. Quoi. De toute manière, ben, bon, ça va nous tomber dessus, bon, d'une façon grave, atténuée, catastrophique ou moins catastrophique, selon comment on va réagir. Mais de toute façon, on ne va pas l'échapper. Donc, tout l'avenir de la planète et de l'humanité va être conditionné à ce changement-là. Après, bon, j'aurais pu dire, bon, ben, je vais passer mes histoires 10 000 ans dans l'avenir, et puis ce ne sera plus qu'un lointain souvenir. Bon, c'est un peu ce que je fais avec les chroniques des nouveaux mondes. Ça se passe dans la fin de siècle, et effectivement, le changement climatique, je vais le mentionner, mais c'est plus qu'un lointain souvenir, quoi, c'est une péripétie de la planète et de l'humanité. J'aurais pu continuer comme ça, puis mettre les problèmes sous le tapis, puis continuer à faire du plaisir. Mais bon, j'ai eu envie de le traiter parce que, bon, voilà, je suis comme ça, j'aime bien prendre à bras le corps les problèmes du monde et puis ça m'aide à mieux les comprendre, d'essayer de les expliquer de la façon la plus réaliste possible, en fait. Et mon intention, c'était ça, c'était d'expliquer le réchauffement climatique d'un point de vue social de la façon la plus réaliste possible, que ce soit donc en 2030, donc dans 15 ans, que ce soit dans 80 ans, que ce soit dans 300 ans, quoi. Dans 300 ans, j'ai pris la vie de membres du GIEC, de spécialistes de la planète, de scientifiques du CNRS et tout, qui sont d'ailleurs bien éclatés. Imaginez la Terre dans 300 ans, parce que ça, ils n'ont pas le droit de le faire. Hein. Alors, prévision, moi, du rapport du GIEC, ils n'ont pas le droit de le faire. Donc là, ils se sont donnés à cœur joie. Ce serait exagéré, effectivement, mais dans 300 ans, ce serait autre chose. Ah ben, c'est encore plus pessimiste que moi.
ce qui est intéressant, tout ce que vous dites, c'est qu'à chaque fois, il y a un côté système message ou interrogation. Quand on parle de rêver le futur, il n'est pas très joyeux dans vos différents romans. Est-ce que pour Charles Strauss, c'est la même chose? Est-ce qu'à chaque fois que vous faites... par exemple, une affaire de famille où on parle aussi de trafic de drogue et d'économie ou etc. Est-ce que à chaque fois que vous écrivez, vous avez envie de aussi parler d'aujourd'hui? Est-ce que ça naît d'une inquiétude?
Still make a stab, make
L'idée, c'était de savoir s'il y avait effectivement une inquiétude du présent qui faisait naître vos romances, si l'intention était là.
It's my first novel to be translated here in 7 years.
Malheureusement, il y a eu un petit trou dans ma publication française parce que ce roman est le premier en 7 ans. Et le premier qui a été publié en 7 ans, and that's the first one. Et c'est le premier, en fait.
So a lot of my newer work hasn't been translated.
Donc beaucoup de son travail actuel n'a pas été traduit en français. Says it's going to do it. I said, please, it's going to do it. C'est un appel. Qu'est-ce que c'est? C'est donc un appel aux éditeurs. Si on avance, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ça veut dire que sur la deuxième partie de notre table ronde, on parle de rêver le futur, ce rêve de futur? Pardon? Ce rêve de futur est forcément cauchemardesque pour vous, auteurs de science-fiction. Est-ce que vous pourriez imaginer? Alors,
en fait, j'ai essayé moi d'écrire une utopie, mais c'est chiant comme la mort. Donc, écrire sur un monde parfait où tout se passe bien, voilà, j'ai essayé de le faire, mais ça n'a jamais été publié. On a du mal à soutenir l'intérêt narratif. Donc, c'est intéressant au niveau intellectuel, mais au niveau de la narration, c'est un voyage touristique où il ne se passe rien. Donc, je pense qu'au niveau simplement du travail d'écrivain, c'est bien mieux de travailler avec des sujets difficiles et des avenirs noirs. Après, je pense que ça correspond vraiment à la nature humaine. L'humain est inquiet, résistant au changement, il a peur, il réfléchit trop. Donc, c'est vrai que tous les thèmes vont être déclinés. Donc, voilà, les mondes où la nature a disparu, dans Fondation, dans l'Hyperion, là, les planètes complètement métalliques, les mondes où il n'y a plus de liberté de penser, chez Bordage, les sceptiques onéreuses qui espionnent, les mondes où il y a des riches et des pauvres, comme du four avec les riches qui sont en l'air et les pauvres. Voilà, toutes les horreurs qu'on peut imaginer sortent dans la science-fiction parce qu'on est simplement humain et l'humain est inquiet.
Jean-Marc, c'est marrant que tu dises ça, essayer d'écrire un roman utopique, parce que moi j'avais essayé à l'époque de lancer une série de romans utopiques. Et j'avais demandé à une douzaine d'auteurs, j'avais fourni une trame et tout, enfin, j'ai décrit le monde utopiste en question. Bon, qui n'était pas parfait, puisqu'il fallait qu'il y ait de l'histoire, donc qu'il y ait des problèmes encore. Mais globalement, voilà, on solutionnait pour le meilleur, tant qu'à faire. Et tous les auteurs étaient assez emballés par l'idée, mais personne n'avait d'idée, en fait.
Une bonne fin du monde avec des barres de fer, des mecs qui se battent.
Ceci dit, moi je trouve que ma chronique de Nouveau Monde, ça se rapproche assez de l'utopie. Moi, c'est un monde dans lequel j'aimerais bien vivre. Parce que voilà, l'humanité a surmonté ses problèmes, elle s'est rendue compte qu'elle était bien bas sur l'échelle de l'évolution par rapport à certaines races extraterrestres. Ça lui a un peu rabattu son taquet, donc elle est devenue plus humble. Et puis elle a développé différentes cultures sur différents mondes. Bon, il y en a qui ne sont pas très cool à vivre, mais d'autres c'est plutôt sympa. Et puis, il y a vraiment une pluralité culturelle. Quoi. Donc, pour moi, un monde proche de l'utopie, c'est un monde où il y a effectivement une pluralité culturelle et où les diverses cultures, au moins, ça respecte. Bon, après, qu'il y ait des conflits, quand on se tape dessus, etc. Comme,
remercier. On va